Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. On voit que la fin de l'année liturgique approche à grands pas, avec son lot de prophéties au ton parfois bien terrifiant. Et même si Jésus nous promet à la fin de l'évangile de ce jour que pas un cheveu de notre tête ne sera perdu, il y a quand même un peu de quoi s'inquiéter. De qui parle Malachie dans sa menace contre les impies et les arrogants? Ne serions-nous pas concernés? Peut-être qu'il serait bon de vérifier. L'impiété, c'est le fait de ne pas rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Soit dit en passant, c'est le crime dont on accusait les premiers chrétiens au temps des débuts de l'Église, parce qu'ils refusaient d'offrir le sacrifice aux dieux et de se prosterner devant l'empereur. Ce n'est certainement pas notre cas aujourd'hui, parce que si nous sommes venus à la messe ce matin, c'est justement pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Mais sommes-nous là seulement pour satisfaire à l'obligation dominicale ou réellement pour offrir notre semaine passée et puiser à la source de l'Eucharistie le moyen de rendre à Dieu le culte qui lui est dû tout au long de la semaine, dans les activités quotidiennes, la prière et le service concret des frères? Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Samedi prochain, nous allons clôturer l'année de la miséricorde. À cette occasion, notre évêque consacrera notre diocèse au cœur de Jésus. La clôture de l'année de la miséricorde, nous dit-il, ne signifie pas que le cœur miséricordieux du Christ se ferme et que nous n'avons plus à être témoins de la miséricorde ni à vivre les œuvres de miséricorde. Le cœur du Christ, dit-il, reste ouvert pour toujours. Et il précise, si on ferme les portes saintes, c'est pour que dans nos diverses communautés, les portes de la miséricorde s'ouvrent, pour que nos cœurs s'ouvrent comme le cœur du Christ qui a été transpercé sur la croix. Si l'on en croit notre évêque, il s'agit donc de continuer à mettre en œuvre le vrai culte dû à Dieu à travers le sacrement du frère, pour reprendre l'expression de saint Jean Chrysostome. Nous sommes, je crois, bien d'accord sur le fait que c'est sur la parole de Jésus qu'est fondée notre foi. Prenons un exemple. Quand nous le reconnaissons, Jésus, et que nous l'adorons présent en son Eucharistie, c'est que nous avons confiance en lui quand il nous dit « Ceci est mon corps ». Alors, accordons-nous la même foi à sa parole quand il nous dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Une fois acceptée la réalité de l'incarnation, c'est intellectuellement plus facile d'envisager la présence réelle du Christ dans les plus petits que dans un morceau de pain. Le problème, c'est que la présence du Christ en tout homme, quel qu'il soit, nous engage beaucoup plus concrètement. Ne sommes-nous pas ces arrogants condamnés par Malachie quand nous trions ce que nous voulons bien retenir de la parole de Dieu? Est-ce à nous de définir ce que doit être notre relation à Dieu? Ne créons-nous pas souvent un Dieu à notre mesure qui nous permet de nous contenter nous-mêmes? Et pourtant, c'est là où nous ne l'attendons pas que bien souvent Jésus se révèle. Au début de l'année de la miséricorde, notre bien-aimé pape François déclarait « Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans l'habitude qui anesthésie l'âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l'aide. » Rappelons-nous que c'est Jésus en croix que Mère Teresa entendait crier « J'ai soif » à travers la souffrance des pauvres de Calcutta. Alors comment vérifier si nous sommes sur le chemin de la piété filiale ? Malachie nous donne un truc, c'est la crainte du Seigneur. Alors attention, la crainte du Seigneur n'a rien à voir avec la peur d'un Dieu menaçant de nous passer à la broche. Tant que nous serons dans une attitude tremblante devant l'idée d'un Dieu vengeur, nous ne pourrons que nous dessécher et nous recroqueviller dans des postures craintives, tatillonnes, rigides et finalement mortifères. Le psaume 97 que nous avons chanté tout à l'heure le dit bien, « Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie, acclamez le Seigneur !» Il n'y a rien de frileux ni de tremblant là-dedans. C'est la joie qui s'exprime. « Car le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. » Alors est-ce que nous sommes d'accord que ce soit le Seigneur qui gouverne le monde ? C'est ça qui n'est pas sûr. La crainte de Dieu, c'est laisser à Dieu la place qui lui est due, sans pour autant oublier la nôtre. Il y a un calife, et notre vocation n'est pas de devenir calife à la place du calife. Is no good. Le péché, depuis les origines, c'est l'homme qui veut se passer de Dieu ou prendre sa place. C'est une fausse route pour l'homme. Très vite, il prend conscience de son indignité et se retrouve nu comme un ver, et de plus en public. Dieu a foi en l'homme créé à son image. Le problème, c'est l'arrogance de l'homme. Cet amour de Dieu pour lui est si grand qu'il lui monte à la tête. Il se prend pour Dieu au lieu de se laisser prendre par lui comme un fils. L'impiété dont nous parle Malachie, c'est l'envers hideux, la caricature grotesque de la piété filiale que le Christ est venu nous apprendre par toute sa vie. Non pas ma volonté, mais la tienne. En entrant dans le monde, nous dit la lettre aux Hébreux, Jésus dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Faire la volonté de Dieu, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement ajuster notre vie à la volonté de Dieu. Ça passe par un acte volontaire permanent d'abandon et de disponibilité à Dieu et à ce qu'il veut pour nous. Or, ce que Dieu veut pour nous, tout le monde le sait très bien, c'est que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain. Un autre conseil donné cette fois-ci par saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui, faire notre travail dans le calme. Paul se place comme modèle, un petit peu prétentieux et un peu dangereux. Mais pour éviter l'équivoque, il ajoutera dans sa première lettre aux Corinthiens « Prenez-moi pour modèle, mon modèle à moi, c'est le Christ. » Si la deuxième lecture que nous avons entendue allait jusqu'au verset 13 au lieu de s'arrêter au verset 12, nous aurions entendu un troisième conseil. « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Alors faire le bien sans se lasser, ce n'est pas forcément accumuler les activités ou les réalisations plus impressionnantes les unes que les autres. Jésus nous fait comprendre d'ailleurs, comme pour le temple, que des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Faire le bien, finalement, c'est faire notre boulot, sans nous agiter dans tous les sens, affairer sans rien faire. « Je passe tellement de temps à ne rien faire, disait le poète Reverdy, qu'il ne m'en reste plus assez pour travailler. » Les circonstances et conditions dans lesquelles ce travail, cet amour, va se réaliser, ne dépendent pas toujours de nous. Et d'ailleurs, c'est bien ainsi. Mais la mise en œuvre de ce travail, la mise en œuvre de cet amour, elle dépend de nous. « À vous le soin, dit l'officier de marine en passant le commandement. » L'anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 peut être une occasion de réveiller notre vigilance. En effet, tout autour de nous, et c'est encore plus vrai en période électorale, se lèvent des prophètes de malheur ou de soi-disant bonheur. qui, devant les catastrophes en tout genre, n'ont aucune difficulté à nous prédire le pire et à nous proposer des solutions de toutes sortes. Repli sur nous-mêmes, invitation au djihad, et encore faudrait-il savoir vraiment ce qu'est le djihad, construction de murs, confinement du religieux à la sphère privée, laïcité devenue folle, rejet de l'étranger, croisade et j'en passe. Certains voudraient même nous récupérer au nom de Jésus dans un genre d'adaptation du message pour tant de crises. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, nous dit Jésus. Ne marchez pas derrière eux. Ne pas s'aligner derrière celui qui crie le plus fort ne veut cependant pas dire rester inactif. Chacun se doit, en fidélité à l'Évangile, de regarder devant sa porte et autour de lui. Comment puis-je donner ma vie à la suite de Jésus ? C'est ça, faire son boulot dans le calme. Et même si au sein de nos propres familles, de nos propres communautés ou de nos cercles d'amis, au sein de notre propre Église, parfois, il nous arrive d'être incompris, moqués ou même menacés, voire livrés, Jésus, qui en a vu d'autres, nous dit « Ils feront mettre à mort certains d'entre vous, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Mais il ajoute « Ne vous préoccupez pas de votre défense, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Il est bon de rappeler que, dans la bouche de Jésus, garder sa vie ne veut pas dire échapper à la mort physique. Important, parce qu'on a souvent tendance à confondre. C'est d'ailleurs en remettant sa vie entre les mains de son Père sur la croix que Jésus se met en condition de la recevoir en plénitude. Soyons clairs, donner sa vie, et donc la garder, c'est la seule manière d'échapper à l'impiété de l'arrogant. Lui qui pense trouver en lui-même la clé de son avenir. Sa fausse religion fait de lui un homme de paille voué à la fournaise du jour de Dieu qui ne laissera de lui ni branche ni racine. Pour conclure, redonnons la parole à notre pape François qui nous dit « Nous ne pourrons pas échapper aux paroles du Seigneur et c'est sur elles que nous serons jugés. Aurons-nous donné à manger à qui a faim ?» et à boire et à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l'étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? C'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent. Sa chair devient le nouveau visible. Sa chair devient de nouveau visible, pardon, en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré, pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. Et le pape de terminer, n'oublions pas par les paroles de saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour.